Il va être question à présent du harcèlement scolaire. Vous avez peut-être entendu tout récemment que le parquet de Pontoise en France avait requis un procès pour deux adolescentes, mais aussi une enseignante. Elles sont accusées d'avoir harcelé une jeune collégienne de 11 ans, Eva L., qui avait fini par mettre fin à ses jours en 2019. En France, un élève sur 10 serait harcelé à l'école, et même un sur 5, selon une récente étude de l'IFOP. Derrière ces chiffres, il y a bien sûr des enfants qui souffrent et qui vont parfois donc jusqu'à se suicider. Un fléau récemment devenu priorité nationale pour le gouvernement français, qui a donc lancé toute une série de mesures. Lise Verbeek a tenté de comprendre l'ampleur du phénomène.
Dans ce collège d'Amiens, cela fait 2 ans que des policiers viennent animer des ateliers de prévention sur le harcèlement scolaire. Comme ce jour-là, avec le major Rudy Michaud, en uniforme.
Alors comment ça se manifeste, le harcèlement ?
Du harcèlement moral.
C'est quoi le harcèlement moral ?
Genre ils disent quelque chose qui le touche, dans le cœur.
C'est du harcèlement avec les mots.
Ça peut être quoi d'autre ? On a dit des insultes, des moqueries. Ça peut être quoi ?
Des menaces.
Pendant une heure, le policier va échanger avec les élèves.
Des intimidations. Ça peut être style, tiens, ce soir à la sortie du collège, je vais t'attendre devant. D'accord ?
Quitte à être très direct.
Vous avez des frères et sœurs ?
Oui.
Imaginez un instant que votre frère ou votre sœur soit harcelé un jour et qu'en rentrant chez vous, vous leur trouviez pendu à son lit. Votre frère ou votre sœur, vous ne leur verrez plus jamais. Ok ? C'est ça que ça veut dire. Imaginez la douleur pour vous, pour les autres, vos autres frères et sœurs qui restent, vos parents, vos amis. Vous voyez ce que ça peut faire ? Donc si un jour vous êtes victime de harcèlement, je me fous de savoir à qui vous allez en parler, mais il faut en parler.
Prends aussi des exemples qui peuvent peut être choquant pour eux, mais au moins qu'ils les mettent devant la réalité, la faire réagir, et surtout pas qu'ils puissent un jour penser ou passer à l'acte. Dans leur mémoire, je pense qu'un policier en uniforme devant eux, voilà, ça a plus d'impact que les parents, les amis, même les professeurs. Voilà, ça sort un peu du contexte éducatif. Voilà, ça a besoin d'être martelé parce que oui, il y a encore des exemples où ils ne se rendent pas vraiment compte du mal qu'ils peuvent faire. Des fois, c'est anodin au départ. Hein, c'est pour ça que je prends des exemples dans la classe auxquels ils pourraient mettre fin eux-mêmes ou les autres élèves. Donc là, ça a besoin d'être rabâché. Puis de parler aussi des sanctions éventuelles parce que ça, c'est encore... c'est pas encore concret pour eux. En plus, ils sont jeunes. Voilà.
Donc, on est en face de vous. Mais le cyberharcèlement, c'est quoi ? C'est le prolongement du harcèlement derrière un écran. Donc si toi, tu reçois une moquerie d'un autre, que tu la diffuses à quelqu'un d'autre, tu participes au harcèlement.
Arnaud Vité, le principal adjoint du collège, a vu l'évolution de la prise en compte du harcèlement à l'école.
Aujourd'hui, on apprend à écouter la parole des enfants. Ce changement de paradigme, il est important. Ce qui nous resterait à faire, je pense, moi, c'est comment accompagner les élèves victimes qui sont souvent des élèves plutôt timides, plutôt réservés. C'est comment amener l'élève à pouvoir justement savoir répondre, sans être dans l'agressivité, etc. Si on accompagne tout le temps la victime, qu'on répond à sa place, elle garde son statut de victime. Par contre, l'accompagner et l'aider justement à savoir répondre par lui-même et regagner de la confiance en lui, en allant petit à petit, en utilisant des biais comme l'humour, qui vont pas le mettre en danger, mais qui vont permettre au harceleur, ou en tout cas à celui qui a un rapport de domination avec lui, de se rendre compte que l'autre, il se laisse plus faire, quelque part, ça peut provoquer des choses. Parce que l'idée, elle est là derrière, c'est comment aider cette personne, pas régler seulement la situation de harcèlement, parce qu'on est tous à tomber dessus au niveau adulte et qu'on a mis toute la punition, la sanction, le dépôt de plainte, le machin, mais à faire qu'il soit plus victime de harcèlement par la suite, dans son travail, dans le bus, dans la vie, etc. Et qu'il sache lui-même s'en prémunir. Et ça, c'est vraiment important.
C'est important car les enfants victimes de harcèlement scolaire développent des phobies scolaires, mais aussi des phobies sociales. C'est le cas pour Margot. Elle a 20 ans aujourd'hui. Sur le canapé de son salon, elle fait défiler les dernières vidéos qu'elle a publiées sur ses réseaux sociaux, la seule fenêtre de communication avec les autres qu'elle s'autorise.
Alors, mon parcours de absolument toute ma scolarité sans répit parce que du coup ça s'est pas arrêté. Et donc j'ai mis des photos de moi petite et je dis un peu qu'on m'appelait la bactérie ou le monstre ou le microbe. Là j'ai mis que j'aimerais que tout ça s'arrête.
Depuis sa naissance, elle a une paralysie faciale. Margot a subi du harcèlement pendant quasiment toute sa scolarité, en école primaire, au collège et au lycée.
C'était des grimaces. Après c'était à la cantine, du coup que personne ne voulait de moi. Ou alors j'entendais des gens entre eux. Imagine, tu dors à côté de ça. Moi, je me réveille en sursaut. Je préfère ne pas me réveiller carrément. Et sinon, le plus dur, ça a été sûrement les coups.
Comment tu te sentais quand tu allais à l'école le matin?
J'essayais de ne pas pleurer, de rester forte. Parce que du coup, je disais pas à mes parents que c'était tous les jours comme ça. Et je disais encore moins que je me faisais frapper ou insulter. Ou...
Pourquoi tu n'arrivais pas à leur dire ce qui se passait pour toi au quotidien?
On m'avait sorti, t'es vraiment une belle salope toi, de te dire en gros. T'es vraiment faible, t'es une victime en fait, je préfère m'acharner sur toi plutôt que sur quelqu'un d'autre. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai rien dit.
Sa mère a quand même réussi à savoir ce qui n'allait pas et elle a régulièrement alerté les profs et l'équipe éducative. Certains étaient vigilants et l'ont protégée, d'autres moins en évoquant de simples chamailleries entre enfants. Isolée, Margot retourne sa souffrance contre elle.
Et vers la troisième, j'ai commencé à me faire du mal physiquement. Je me faisais du mal sur les bras et sur les cuisses. Au lycée, c'est là que je me suis dit, t'auras ta vie toute... ta vie comme ça, toujours. Donc j'ai fait 3 tentatives de suicide et la troisième, le médecin il m'a dit que j'aurais vraiment pu y passer. Il m'a dit, vous avez eu de la chance. Et dans ma tête, j'ai regardé, je me suis dit, mais monsieur, moi je ne voulais pas avoir cette chance. Donc voilà.
Aujourd'hui, Margot est toujours suivie par un psychologue et elle tente doucement de trouver un projet professionnel en cherchant des stages dans le funéraire. La lutte contre le harcèlement scolaire est devenue une priorité du gouvernement français à la dernière rentrée. Pour cela, le programme PHARE va être généralisé dans tous les établissements. PHARE pour Plan Global de Prévention et de Traitement des Situations de Harcèlement. Ce programme propose notamment de mettre en place dans chaque établissement une équipe ressource, des personnels éducatifs spécialement formés pour savoir comment agir.
Je m'appelle Hélène Longuet, je suis conseillère principale d'éducation au Collège Sagebien et je suis l'une des référentes du dispositif PHARE.
La CPE a connu dans sa carrière beaucoup de situations de harcèlement. Aujourd'hui, elle se sent mieux armée pour y faire face. Dans ce collège amiénois de 700 élèves, elle utilise notamment la méthode de préoccupation partagée où le mot « victime » est remplacé par « élève cible » et « harceleur » par « élève intimidateur ».
À partir du moment où on a connaissance d'une situation de harcèlement, une personne de l'équipe ressource reçoit l'élève cible. Ensuite, nous voyons les parents de l'élève cible avec qui nous faisons le point sur la situation et d'autres personnes de l'équipe ressource eux reçoivent les élèves intimidateurs séparément. Et en fait, ces entretiens-là avec les élèves intimidateurs sont timés. Ils doivent pas dépasser plus de 3 minutes. Ils doivent pas se sentir accusés. On a même des questions précises à leur poser. On lui explique que si on a demandé à le voir, c'est parce qu'on est inquiet. Donc, pour l'élève cible, on lui donne le nom et le prénom de l'élève. On lui demande s'il le connaît. Bien généralement, il nous répond que oui. Et on lui dit, nous, on est très inquiets. Elle semble pas aller très bien en ce moment. Est-ce que toi, tu as pu observer quelque chose? Et souvent, ils nous répondent oui. Et suite à ça, on rebondit. Et la prochaine question qu'on leur pose, c'est, à ton avis, pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à aller mieux? Et l'objectif, c'est de les amener à proposer des solutions pour que cette jeune fille ou ce jeune homme se sentent mieux et effectivement on développe l'empathie chez les élèves intimidateurs pour que la situation cesse.
Au bout de 15 jours, l'équipe reçoit à nouveau l'élève harcelé et le suit ensuite tous les mois. Si les faits n'ont pas cessé, un mécanisme de sanction est enclenché.
Moi l'an dernier, c'est ce que je disais, j'ai traité 12 cas de harcèlement avéré. Sur les 12 cas, on en a réglé 9 sans poser de sanction. Il y en a 3, dont un pour qui une sanction très forte, mais la méthode fonctionne.
Autre mesure du programme PHARE, la mise en place d'élèves ambassadeurs. Dans ce collège, une quarantaine d'élèves a été volontaire, dont Crésus en classe de 3e.
En tant qu'ambassadrice, j'envisage d'abord de regarder et de localiser les personnes qui se font harceler, aller vers elles pour qu'elles puissent en parler, parce que c'est pour moi, si j'ai un problème, je vais vouloir en parler à une personne de mon âge que d'aller directement vers une grande personne, ce qui est assez difficile. Une personne de son âge, on a le même âge, on se comprend, on fait les mêmes choses, on vit un peu les mêmes expériences. Du coup, ça va être plus facile de parler à quelqu'un comme moi. Je vais aller vers cette personne, comprendre, et aussi aller vers l'harceleur pour comprendre pourquoi il fait ça, parce que c'est pas forcément une mauvaise personne. C'est juste, il s'est fait harceler quand il était petit, du coup, il fait la même chose. Ça, c'est lui, il prend ça sous le ton de la blague, mais c'est du harcèlement. Ou encore, c'est juste parce qu'ils sont inférieurs aux autres. Voilà pourquoi je préconise de parler aux gens, pas d'aller avec la violence, mais de parler. Parce que ça sert à rien, la violence. Ça va rendre encore la personne plus violente comme elle est.
Ces élèves ambassadeurs ont suivi une formation spéciale pour apprendre à détecter des camarades potentiellement harcelés, mais aussi pour animer des ateliers de prévention auprès d'autres élèves. Tous les collèges n'en ont pas encore, mais l'objectif est d'élargir ce dispositif à tous les établissements et également au lycée. Élèves vigie, méthode de préoccupation partagée, degré dans les sanctions, autant de dispositifs qui n'existaient pas il y a 8 ans quand Dylan était au collège.
Vous voulez un café
Oui.
Un petit du coup.
Un petit, oui.
Dylan, 23 ans, vit dans un petit village en Picardie et subit toujours les conséquences du harcèlement qu'il a vécu.
Ça me suivait partout, même dans le bus, même sur les réseaux sociaux. Le soir, quand j'entrais chez moi, j'avais des messages injurieux. Dans les escaliers, on me jetait par terre. Dans la cour, on me tapait. Dans les vestiaires, on me mettait dans les douches, dans l'eau froide. C'était vraiment une catastrophe. J'allais à l'école en pleurant, c'est ça. J'avais vraiment une réelle peur en moi. C'était vraiment comme si c'était une phobie qui était devenue d'aller à l'école. Je n'osais même plus sortir de chez moi, je pleurais tous les soirs, j'arrivais même plus à endormir. Je perdais du poids tellement que j'arrivais plus à manger. C'était vraiment douloureux.
Il a mis longtemps à en parler à son père, il avait honte. En quatrième, il va de moins en moins en cours, se déscolarise peu à peu jusqu'à ne plus y aller du tout. Aujourd'hui, suivi par un psychologue, sa vie est encore chamboulée.
J'ai encore le moral qui fait un peu le yo-yo, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai encore beaucoup de moments où je repense à ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, même aller au contact des jeunes, c'est encore très compliqué. J'y arrive toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, ça fait que je suis totalement perdu actuellement dans ma vie. Finalement, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui chamboule toute notre vie, finalement. C'est pas l'histoire que de 2-3 ans, mais je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Et il faut que j'apprenne à vivre avec. Les séquelles psychologiques, ça, malheureusement, ça restera à vie. Et puis du coup sur mon avenir c'est exactement ça, vu que j'ai pas de diplôme, j'ai pas forcément travaillé de projet pro, donc du coup je sais pas forcément ce que je veux faire non plus réellement de ma vie, alors d'aujourd'hui c'est très compliqué.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant.
Comme Dylan, Cassandra, 20 ans, a été harcelée au collège. Elle n'est pas allée à l'école pendant 6 ans et n'aurait jamais pensé pouvoir remettre les pieds en classe. Aujourd'hui, elle est en classe de première générale, mais dans un établissement un peu particulier, un micro-lycée à Amiens. Ici, les classes sont plus petites et les méthodes pédagogiques différentes.
Je me sens vraiment très à l'aise dans les locaux, même avec les personnes et avec les profs. J'ai l'impression de revivre. Voilà. La différence, c'est le nombre d'élèves, la compréhension des profs, dans le sens que quand un élève va pas bien, il peut sortir de cours. Quand il fait une crise d'angoisse, ou on a l'impression de vraiment avoir un dialogue et une relation avec... Les profs.
Chose que tu n'avais pas avant.
Non, pas du tout. Vraiment, ici on peut avoir le numéro des profs, on peut leur parler, on nous attribue un tuteur qui fait attention à nous, et on a vraiment l'impression d'être pris en compte. Dans les cours, je pense que ça dépend plus des profs, mais dans l'ensemble, par exemple, on a la possibilité de bouger dans la classe, on s'assoit sur des ballons, on peut ramener des plaids, tout ce genre de choses. Donc, les cours en soi, ça reste des cours traditionnels, même si ça dépend du prof et que avec le prof, ça peut être, c'est plus agréable. Mais dans la façon de faire, c'est différent. On sent plus à l'aise. C'est rassurant. Je sais pas comment expliquer, mais quand par exemple vous dites j'ai pas envie de m'asseoir parce que je me sens pas de m'asseoir, on peut rester debout et c'est comme si on s'appropriait la classe et du coup on se sent moins stressé d'y être.
Par rapport au texte là,
Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que produit la Chine pour les États-Unis ?
L'objectif de ce micro-lycée est de rescolariser, de diplômer et d'orienter. Le harcèlement scolaire est depuis quelques années l'un des facteurs le plus mis en avant par les décrocheurs. Sana Merabé est professeure d'espagnol au micro-lycée. Elle est aussi la tutrice de Cassandra.
Surtout qu'elle puisse voir que ce n'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est un petit peu le message que j'ai envie de véhiculer grâce à cette fonction.
Pourquoi ce message-là ?
Parce que j'ai moi-même subi du harcèlement quand j'étais au collège. C'est justement la genèse de mon engagement. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu en primaire et au collège. Et ça a été très difficile sur le moment parce que, en fait, quand on a des adultes qui comprennent et surtout qui agissent, on se sent moins seul. Le problème, c'est que j'avais que mes parents. Quand on a une expérience personnelle qui rentre en jeu, on est un petit peu plus sensible au regard des élèves entre eux, aux mots qui sont échangés, aux comportements. Et justement, je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de paranoïaque sur la question, hein, mais je suis vraiment très sensible au bien-être des élèves dans la classe de manière générale, à l'école de manière générale. Donc effectivement, un regard, un mot, ça va vite m'interpeller. Les
téléphones. L'enseignante est aussi la tutrice de Maëlys, 20 ans. C'est sa deuxième année au micro-lycée. Elle est en classe de première générale. L'école, avant, c'était synonyme pour elle de crise d'angoisse, de maux de ventre et de tête à cause du harcèlement qu'elle y subissait. Elle n'a pas réussi à tenir un stylo et un cahier pendant 5 ans. Aujourd'hui, tout a changé.
Alors, je ne vais pas le cacher. Au début, c'était difficile parce que donc, je suis à l'internat, je ne peux pas être chez moi. Et maintenant, franchement... Ça va très bien, on a vraiment un bon groupe, ça se passe vraiment bien. Mais il y a des moments où je suis contente d'aller en cours, enfin de rapprendre des choses et de me dire que j'ai enfin pas une vie normale, mais la vie que les gens de mon âge ont, même si eux ne sont plus au lycée, mais à la fac, ça me fait du bien en fait. De revoir une vie sociale aussi, il n'y a pas que les cours aussi, c'est de s'entourer de gens qui... Alors on n'a pas tous le même parcours, mais... On se comprend tous, en fait, on est tous bienveillants. Pourtant, que j'ai repris les cours alors que ça a toujours été ce qui me rendait mal, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.